Mais il faut apprendre à se dire qu'il y aura des moments de lumière et des moments d'ombre. Et il faut, voilà, le tout, c'est de savoir vivre avec, je pense. Et je me suis toujours attachée à cette idée-là, qu'on pouvait vivre avec et aménager sa vie au mieux, en fait, avec ce trouble et en faire une force aussi. C'est très important d'en faire une force.
Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement tous, je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression, hein, et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs, afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé comme d'hab une bonne semaine. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode du jour. J'aime beaucoup cette intro, hein, j'aime vraiment beaucoup vous la proposer et je vous la propose aujourd'hui pour vous présenter un épisode particulier. Il s'agit d'un interview et l'interview de Julie. Elle a bien voulu nous raconter une part de son histoire, une part de son hospitalisation, une part de sa dépression et une part de ses troubles du comportement alimentaire. Ensemble, nous allons parler un petit peu de son histoire et elle va vous donner des conseils vraiment très encourageants pour tenir le coup face à la dépression. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec l'interview du jour.
Du coup, aujourd'hui, nous sommes avec Julie qui a bien voulu du coup prendre quelques instants pour nous parler un petit peu de sa situation, de sa dépression, de son TCA aussi. Et du coup, on va prendre quelques instants pour lui poser quelques questions. Bienvenue à toi, Julie.
Merci.
À quel moment tu as commencé à avoir les premiers signes de ta dépression? Quand est-ce que ta dépression a commencé plutôt?
Alors, ma dépression, en fait, elle est arrivée très progressivement. Ça a été vraiment crescendo. Et du coup, on peut dire qu'elle a été diagnostiquée presque 2 ans après les premiers signes, en fait. Donc, en juillet 2019, très précisément. D'accord. Et avant, en fait, je commençais à me sentir triste, tout ça, mais je ne m'écoutais pas. Et donc, c'est de plus en plus de difficultés, par exemple, à me concentrer, à me motiver pour aller au travail, à me motiver pour sortir, jusqu'à ne plus pouvoir sortir et être complètement une larve, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ça a été très, très progressif.
Donc, étape par étape, toi, tu n'as pas commencé à voir ce qui se passait. C'est ton entourage qui a commencé à voir les premiers signes?
Alors non, du coup, j'étais assez isolée. Donc moi, j'interpellais un peu mon entourage en disant que c'était peut-être pas très normal d'être triste en permanence et puis de me mettre à pleurer en plein milieu d'un repas de Noël, par exemple. Ouais. Mais ça les a pas trop interpellés plus que ça. Et c'est vraiment moi-même qui ai dû prouver, même à mes proches, que j'avais un problème et que j'avais besoin d'aide. Et je me rappelle d'un soir où... au bout de 15 jours, justement en juillet, j'en pouvais plus, j'étais tellement fatiguée et j'étais sur Internet et j'ai tapé dépression et là j'ai lu la liste en fait des symptômes et là je disais mais c'est moi, c'est tout moi. Et donc là je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse quelque chose, mais si j'avais pas trouvé ce site, je serais encore en train de douter, quoi, en train de me dire non mais c'est bon, c'est passager.
Ouais, c'est qu'un petit, tu t'es dit oui, c'est la petite déprime du moment, c'est parce que tu étais isolée à ce moment-là, cette période-là, tu étais du coup un peu plus isolée que d'habitude aussi. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Je revenais de 2 années où je vivais vraiment toute seule et je venais tout juste de m'installer avec mon mari, mais du coup, il était en mode euphorie de vivre ensemble. Donc forcément, il ne se rendait pas compte que ça n'allait pas. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après, je ne voyais pas grand monde non plus. Et la dépression isole énormément. Il pousse toujours à trouver des excuses pour ne pas rien faire et pour ne pas sortir. Donc ça n'aide pas du tout dans le diagnostic et dans l'aide des proches.
Ouais, je comprends bien. Mais écoute, merci beaucoup de nous avoir déjà dit tout ça. Alors du coup, donc tu as vu que les premiers symptômes sont arrivés. Qu'est-ce que tu as fait du coup pour toi à ce moment-là?
Et ben du coup, suite à cette consultation tardive d'un site internet, j'ai dit à mon mari que j'avais vraiment besoin d'aide. Il m'a pas trop cru. Du coup, de moi-même, j'ai commencé à chercher à voir un psychologue en CMP, donc centre médico-psychologique, puisque du coup, je me disais que ça allait coûter cher et tout ça, et je voulais pas être que ce soit un poids financier pour notre foyer. Et en fait, j'ai pas eu trop de chance. Le psychologue en question n'était pas, enfin, m'a pas répondu. Enfin, j'ai envoyé un mail. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai envoyé le vendredi et le vendredi soir, on est parti en voiture avec mon mari. Et là, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, mais que je savais pas que c'était une crise d'angoisse. Et en disant à mon mari, je vais aller à l'hôpital là maintenant tout de suite parce que là, ça va pas le faire. Et c'est là où du coup il m'a dit ben, je t'emmène chez le médecin traitant mardi et j'ai vu le médecin traitant qui m'a envoyé vers une psychologue qui était disponible le vendredi juste après tout s'est très bien
Tout s'est
enchaîné
enchaîné
mais
bien.
j'ai de la
D'accord.
chance pour ça. Voilà, c'est
Assez
passé
cool.
comme ça. Ouais.
D'accord. Donc du coup, très rapidement, en fait, tu as vu que c'est les signes et du coup, tu as tout de suite pensé à prendre soin de toi.
Ouais, ben en fait, j'en suis pas à mon premier épisode dépressif, mais c'est le premier vraiment diagnostiqué, on va dire.
OK.
Les autres l'ont pas été. J'ai déjà vu des psychologues, mais pour d'autres troubles, des troubles plutôt anxieux. Donc j'ai eu un peu le réflexe de me dire quand j'ai eu des moments très down dans ma vie, mes parents ou l'infirmière scolaire m'ont toujours poussé à aller voir des psychologues. Donc j'ai eu un peu ce réflexe-là, mais c'était vraiment un réflexe de survie parce que je pensais vraiment que j'allais mourir tellement c'était fort et tellement j'avais mal. Enfin, j'avais des douleurs physiques en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé psychologue. Et je pensais pas que j'aurais besoin d'un psychiatre, mais du coup juste après, autant le médecin généraliste que le psychologue qui travaillent ensemble. On dit que pour m'aider, j'aurais absolument besoin de voir un psychiatre, puisque c'était pas suffisant de juste faire une psychothérapie.
Ouais, il fallait le traitement. Donc, du coup, oui, si bien, tu
Ouais.
as eu ce réflexe au fur et à mesure dans les moments de ta vie où tu as dû avoir besoin d'aller voir un psychologue, ce qui fait que tu as eu les réflexes directement. Et
Ouais.
c'est très bien, puisque moi, je n'ai pas eu ce réflexe-là. Hein. C'est pas bien. Mais je n'ai pas eu ce réflexe-là du tout. Ok, c'est
Ah, je
cool.
comprends.
Alors, du coup, tu as mis tout ça en place et tout ça. Donc, tu as commencé la psychothérapie, tu as commencé le traitement. Et je crois qu'il y a un truc qui est venu un petit peu t'embêter. Un petit peu après, qu'est-ce qui t'est arrivé d'assez complexe aussi en plus de la dépression?
En plus de la dépression, bah, j'ai eu une sorte de burn-out dans mon travail. Enfin, en fait, tout s'est un peu entremêlé. On a eu de la dépression, du burn-out, de la crise d'angoisse.
Ouais.
Il a fallu démêler tout ça,
D'accord.
combiné à un bon confinement. Et là, on est, je crois, au summum de ce qu'on peut faire en termes de santé mentale, je crois.
C'est ça même, ouais.
Donc voilà, donc c'est un peu tout ça avec des pertes d'emploi, pertes de repères professionnels, personnels, beaucoup de déménagements. En fait, c'était un gros boulga-boulga de
Ouais.
plein de choses dans ma vie qui se sont agglomérées, que j'ai laissé se tasser. Et puis, enfin, j'ai avoué le confinement, c'est ce qui a vraiment fait tout exploser vraiment en 1000 morceaux, quoi. Enfin, c'était déjà fragile, mais ça
Mais
s'est
c'est
pas
à ça que ça
amélioré.
explique. Mais c'est important qu'on en parle parce qu'il y a eu beaucoup de conséquences psychologiques liées au confinement. Et je trouve que bon, aujourd'hui, c'est bon, faut qu'on passe à autre chose, faut avancer. Sauf qu'en fait, faut pas oublier qu'on a quand même été pour la plupart marqués au fer rouge de cette difficulté-là liée au confinement. Et beaucoup ont eu la dépression qui a explosé ou des difficultés psychiques qu'ils n'avaient peut-être jamais eues, mais c'est parce que le confinement a fait du mal, en fait, psychiquement. Bon, ce n'était pas prévu, ce n'était pas voulu, on n'a pas voulu d'avoir la Covid-19, hein, je crois que personne ne l'a voulu sur cette planète, mais finalement, de voir qu'en fait, ça n'a été pas facile, ben, c'est bien que tu puisses nous dire quoi, que vraiment ça a explosé aussi avec le confinement et tout ça, quoi. D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup hein, Julie. Alors donc du coup, tu as eu toute l'explosion et tu as du coup continué à chaque fois à prendre soin de toi, à chaque fois tu as eu toujours ce réflexe. Ok, je vis un moment down, mais je continue à prendre soin de moi.
Exactement. Enfin, du coup, avec le confinement, j'ai tout fait pour poursuivre mes soins parce que du coup, c'était pas évident. Enfin, tant les psychologues que les psychiatres ont dû s'adapter, passer en visio et Et au début, c'est quand même super dur de parler de soi en visio avec
Ouais,
depuis
c'est
chez
vrai.
soi, enfin, et un lieu où on n'est pas forcément bien du coup. Parce que aller chez son psy, c'est quand même chouette. C'est un moment avec un espace dédié, et là, transposer cet espace chez soi, c'est pas facile. Donc j'ai quand même, je me suis accrochée à ça, même si c'était difficile. Et après, en fait, j'ai surtout de moi-même essayé de tirer les signaux d'alarme quand ça devenait vraiment trop critique. Parce que j'ai un gros problème et je pense qu'on est nombreux et peut-être toi aussi tu as ce problème, je pense. C'est la dépression souriante, ce qui
Ah
est
oui.
terrible. Et donc du coup, on arrive tout sourire chez son psychologue et ou chez son psychiatre et on dit, bon, je crois que je vais me suicider, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Et ça, c'est très terrible. Enfin, je veux dire, à chaque fois, il me regarde en mode, mais vous dites ça avec le sourire, genre, vous êtes sérieux? Et donc, bon, là, j'ai persisté, j'ai dit, non, mais là, je pense vraiment que j'ai besoin d'aide et j'ai besoin, pas forcément que d'un traitement et de psychothérapie, toutes les semaines. Enfin, je crois que j'ai besoin qu'on me cadre, en fait, et que
Ouais.
ça part trop, trop en vrille. Donc, c'est comme ça que... Mais j'ai dû beaucoup, beaucoup insister, hein, ça n'a pas du tout été naturel et j'ai dû même passer par ma psychologue pour qu'elle convainque ma psychiatre de faire une lettre pour être admise dans une structure hospitalière. Donc, c'est pour dire à quel point ça,
Ouais.
de moi-même, c'était très, très compliqué.
Ouais, bah oui, bah c'est bien parce que t'as persévéré, quoi. C'est là aussi où c'est intéressant parce que, bon, pour moi, c'est indispensable. N'importe quel dépressif se doit d'avoir un thérapeute, psychologue ou psychiatre. Après, ça reste des humains de chair et de sang, hein, qui, des fois, font des erreurs. Mais ça, c'est vrai que le fait de ne pas rester focalisé sur l'humain permet aussi de se dire, bon, bah voilà, peut-être qu'il n'a pas vu et que du coup, bah, c'est que moi, j'ai un problème. Non, il y a vraiment le problème. Il n'a pas vu, je vais insister. Et ça, c'est une belle démarche. Et qui, je pense, tu as dû te demander beaucoup.
Énormément
Énorme.
d'efforts, surtout quand on se sent pas légitime. Souvent, bah, déjà avec la dépression, on se sent déjà très nul,
Jamais
enfin
légitime,
voilà,
hein.
et jamais légitime. On se dit, mais il y a pire, enfin, je veux dire, dans le monde, il y a 1 000 fois pire que ce qu'on vit. J'ai pas ma place là, je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. Et puis, si le thérapeute il estime que j'ai pas besoin, c'est qu'il a raison. Mais au final, on est le meilleur juge de nous-mêmes
Ouais.
et il faut avoir confiance en ses intuitions et en ses ressentis. Et on va pas s'amuser à demander des hospitalisations pour le plaisir,
Ah
enfin,
bah
loin de
non.
là. Donc, je pense
Excusez-moi,
qu'il
je veux
faut se faire
partir en
confiance.
vacances. Est-ce que je pourrais aller avoir une chambre d'hôpital? Oui, des vacances,
Non,
oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout.
non, non, malheureusement, non. Donc, non, il faut se battre, en fait. Même quand on est, voilà, en fait, on aurait, je sais pas, on a un grave accident de la route, on n'aurait pas trop à se poser des questions parce qu'on se laisse porter par l'ambulance et
Ouais.
après, on nous dit, bon, bah, madame, désolée, mais il va falloir rester plusieurs jours alité. Là, bah, t'as un grave accident psychologique à cause du confinement et de toute la pression et tout. Et t'es là en train de gicler dans ton sang sur la route et t'es quand même obligé de supplier l'infirmier de t'emmener à l'hôpital, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est quand même super dur. Et c'est 2 fois plus d'efforts, quoi. C'est énorme.
C'est un très bel exemple, hein. C'est un super exemple.
Un peu gore, désolé,
Un peu,
mais
ouais,
c'est comme
bon,
ça que
allez, c'est.
je
On le prend comme ça, t'inquiète, c'est pas grave. On le
vois.
prend comme ça, au moins, il est très bien, on a compris, il n'y a pas de souci.
Parfait, au moins c'est parlant.
Au moins c'est parlant, au moins c'est très très clair, tu vois, on va pas demander plus. Alors je sais aussi que tu souffres de TCA. À quel moment ils ont commencé à arriver? Alors les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. À partir de quel moment ils ont décidé de te venir t'embêter, ceux-là?
Eh ben, à ce fameux déconfinement, en fait, parce que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de pression de la société sur bougez-vous, mais vous pouvez pas sortir de chez vous, alors faut faire du sport quand même. Et puis à la fin, c'était tous les magazines qui étaient en mode perdez vos kilos du confinement. Enfin, ça a été
Ouais, c'est
terrible.
vrai.
Enfin, on avait
C'est
une
vrai.
pression énorme. Et dès que on croisait des gens, ils disaient, ah bah toi aussi, t'as pris du poids. Enfin, c'était genre
C'est vrai.
oh,
Ah, mais c'est vrai. Ah, ça m'a énervé ces gens-là. Ah,
ah,
ça m'a
c'était
énervé. J'avais oublié
insupportable.
cette histoire. Mais oui, c'est insupportable.
Mais
J'avais
oui.
oublié ça, tu vois. Ah, bah tiens.
Ah, c'était
Ouais.
la double peine, tu vois. Genre, déjà, tu sors du truc, t'es pas forcément bien. Et en plus, on te fait plein de remarques,
T'as
voilà, que
grossi.
là-dessus.
Merci, c'est très gentil. Hein. Moi
Merci.
aussi, tu m'as. Toi aussi, tu m'as manqué. Ouais. C'était pendant le confinement, ouais. Oh, oh là
C'est
là.
exactement ça. Ah, c'était moi, je voulais plus voir personne. Enfin, ça m'a. Mais bon, enfin, je pense que voilà, il y a une part un peu de ça quand même qui a beaucoup joué. Mais après, j'ai un terrain quand même TCA depuis très longtemps.
D'accord.
J'ai déjà des pensées anorexiques depuis l'adolescence, si ce n'est l'enfance. Donc, j'ai déjà eu des phases de restriction. Dès que j'ai un peu un choc émotionnel, une angoisse, je perds l'appétit. Donc, ça, c'est assez courant. Mais en grandissant, ça ne s'est pas amélioré. Et avec le déconfinement, en fait, j'ai eu des nouvelles phases de crise d'angoisse qui me paralysaient totalement. Et ça s'est traduit sur le besoin de contrôler quelque chose dans une situation où on ne contrôle plus rien à cause du Covid. Et donc ça s'est porté sur l'alimentation et je suis tombée dans l'anorexie du coup de façon assez rapide. Mais vraiment, je me rappelle, je suis partie en week-end déconfinement, genre c'était le 11 mai, un truc comme ça, juste après.
Juste après.
Et le lundi, mais je pouvais même plus prendre mon petit déjeuner, quoi. Ça a été du jour au lendemain.
Et ça a switché comme ça, quoi. C'est
Ouais,
allez, hop, tiens, on arrive, touc, et puis c'est réglé.
ouais. C'est ça, exactement. Et j'ai pas vu le truc venir. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai juste pas faim. Et en fait, c'est une maladie du déni en plus.
Ah
Donc,
bah oui, ouais, c'est vrai.
on se ment à soi-même sans arrêt aussi. On se rend pas compte. Hein. Et donc, j'ai pas vu du tout le truc venir en fait. Et ça va très très vite en fait.
Et c'est...
Ouais, c'est ça, j'ai perdu. En fait, genre en 4 mois, j'avais déjà perdu plus de 10 kilos, je crois, un truc comme ça.
Aïe,
Mais
c'est
ça,
énorme. C'est
enfin,
une
ouais, c'est.
très grande chute quand même.
Ouais, c'est ça. Mais on sent, puis après, le corps s'habitue, on s'en rend plus du tout compte. Et en fait, et puis les gens, bien sûr, ils sont tous très bienveillants en mode, ah, toi, t'as perdu tes kilos du confinement, c'est
Ah oui, ça
génial.
continue, ça, c'est sûr. Oh,
Voilà, c'est
donc, il faut
ça.
les donner leur débaffe.
Ouais, non, ça, c'est terrible. Donc, voilà, enfin, c'est aussi ça qui est terrible dans l'anorexie, c'est que les gens pensent que c'est super de perdre du poids et que c'est signe de bonne santé, alors que pas du
Pas
tout.
du tout.
Les gens changer d'avis là-dessus,
Oui, c'est
avoir un
vrai.
IMC justement proche du surpoids, c'est mieux que d'être proche du sous-poids parce qu'on a besoin de ce poids. C'est, enfin,
Bah
la
oui.
graisse, c'est pour nous protéger, c'est pour nous nourrir, c'est pour faire face à des situations extrêmes. Et enfin, voilà, on a la chance de vivre dans une société où on peut manger à notre faim et
Ouais.
allons-y, quoi, les gars.
Ouais.
Et arrêtons cette dictature de la minceur.
Eh bien, je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, pour la petite histoire, quand je suis née, je faisais à peine, je faisais 2,5 kg. J'ai jamais été très épaisse. Je suis née en plus prématurée. J'ai toujours fait adolescente aux alentours de 40 à 45 kilos. Et jusqu'à mes 27 ans, je faisais 50 kilos tout rond. Et j'ai pris du poids parce que du coup, j'ai pris le traitement. Et bon, aujourd'hui, j'ai doublé de volume, malheureusement, mais c'est pas grave. Ma santé mentale va au-delà de ma santé physique, mais physiquement, c'est bon, je tiens, il n'y a pas de souci. Ah, mais ça a été la crise, hein. Ça a été la crise autour de moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as toujours été fine, fais un effort. Merci les gens, ça s'appelle comment dirais-je, les antidépresseurs et les neuroleptiques surtout, qui m'ont fait grossir. Donc, c'est les conséquences d'un traitement. Je suis au courant, je suis suivie par une nutritionniste, je ne mange pas n'importe quoi. Et la justification, elle est devenue terrible parce qu'en fait, tout le monde était là, t'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte, mais taisez-vous, les amis. Une femme peut prendre du poids, c'est pas la fin du monde. Si... Et du coup, tu vois, j'ai cette chance, j'ai pas les TCA, mais imagine, je les avais. Du coup,
Et
tu
oui.
vois que c'est gentil du coup de faire ça? Ah là là, bon.
Non, non, mais c'est terrible. Et la société est vraiment sans
Elle
pitié
est sans pitié, je suis
et elle
d'accord.
comprend pas. Et justement, au contraire, enfin, je trouve que quelque part, la chance que tu as dans cette histoire-là, c'est de te dire, bah, vous voyez, la dépression, elle a aussi une apparence, en fait. Enfin,
Exactement.
et ça, c'est, enfin, quelque part, c'est le seul truc qu'on peut avoir parce que souvent, on nous dit que c'est invisible. Ben voilà, je dis,
Là,
ben voilà, vous voyez
vous
mon
pouvez le voir.
traitement.
Oui, non, mais si, c'est vrai,
Ouais,
hein,
c'est
franchement,
vrai,
j'avoue
hein.
que c'est vrai parce que je le justifie, mais officiellement, hein, je veux dire, je le dis aux gens, ils me demandent qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as pris du poids. Bah, j'ai fait une très grosse dépression, très sévère, très grave. Bah, 2 jours plus tard, bah, écoute Manu, comment tu vas? Quoi de neuf, quoi? On a oublié, tu vois. C'est
Ouais.
vraiment la société aujourd'hui, elle est un peu dure
Ouais.
avec nous. Et elle veut qu'on
Tout
se batte et on va se battre, mais des fois il faut être sympa, hein. On
à
nounou,
fait. Ouais.
s'il vous plaît. On a besoin aussi
Exactement.
d'être encouragé et toutes ces choses-là. Ok, merci beaucoup. Donc du coup, Julie, tu as cumulé dépression, TCA, et là, il fallait vraiment prendre soin de toi. Donc du coup, tu as décidé de me prendre une hospitalisation.
Exactement, donc du coup, c'était juste après ce fameux confinement. Donc là, j'ai fait toutes ces démarches pour me faire hospitaliser, qui ont pris beaucoup de temps finalement, puisque du coup, c'était début mai et j'ai été hospitalisée quasiment le 1er juillet, un truc comme ça.
Oui.
Donc bien 2 mois à essayer de convaincre ma psychologue, ma psychiatre, des idées suicidaires très fortes, voilà, les TCA. Donc ça faisait quand même beaucoup de choses à
Beaucoup de
gérer,
choses,
plus la
ouais.
reprise du travail en présentiel. Enfin, Donc, je voyais plus trop le bout. Donc là, j'ai dit stop, on va arrêter le carnage. Et du coup, j'ai pu être admise, une fois que le dossier était envoyé, en une semaine, dans une clinique psychiatrique. L'idée principale, c'était surtout de stopper le carnage, se poser les bonnes questions. Et c'était ça l'objectif ultime, quoi, juste avoir un lieu de sécurité.
D'accord, donc c'était vraiment pour toi, il fallait que tu te protèges. Là, tu étais devenue un danger pour toi-même.
Oui, exactement. J'avais vraiment besoin de me retrouver, mais me retrouver avec voilà, cette protection. Parce que effectivement, pour travailler sur soi, il faut quand même être suffisamment solide. Et là, je pouvais plus continuer mon travail thérapeutique parce que j'étais trop fragile et les séances me laminaient le moral encore plus que justement si j'y allais pas. Et donc, j'avançais plus. Donc, j'avais aussi ce besoin de mettre entre parenthèses ma vie pour vraiment avancer tout en étant dans un lieu où je suis en sécurité et où si ça va pas, on pourra toujours jour et nuit être à
Ben
mon
oui,
chevet.
ben oui,
Voilà.
ouais. D'accord, donc vraiment, ça a été pour toi bénéfique, et donc tu t'es vraiment battue et tu l'as eu, cette hospitalisation. Du coup, aujourd'hui, ça fait un an. Du coup, combien d'hospitalisations as-tu eu maintenant?
Et ben, un an, j'ai fait 4 hospitalisations différentes,
D'accord.
totalement complémentaires les unes des autres, du coup, donc
Ok, donc.
dans 4 établissements différents.
Une pour la dépression, une pour le TCA, ça fait un peu ça jonglait un peu comme ça, ou c'était plutôt lié à tes TCA, si c'est pas indiscret.
Ah non, je t'en prie. Ben non, du coup, la première, c'était vraiment dépression, parce que il y a très peu de structures TCA, c'est très mal.
Il y a peu de structures, c'est un truc très connu. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent. Il y a pas de... bon, là, je découvre des trucs, hein, excusez-moi, mais je découvre des choses. Comment ça, il n'y a pas de structure?
Eh ben oui, moi aussi j'ai découvert ça parce que surtout quand tu vis sur la côte d'Azur, donc je précise que j'habite du côté de Nice, où clairement la dictature de la
Ah
minceur
bah
et
oui,
tout
la
ça, enfin
dictature du corps, bien sûr,
on
c'est
y
plus
est
que
à
chez
fond
nous à
quoi.
Nantes, ouais.
Ouais, c'est ça. Beaucoup de bikinis,
Ah oui, non, il n'y a pas de bikini, nous, chez nous. Parce qu'il fait
et
froid, tu vois, donc
tout
les
ça.
bikinis, ils restent à l'intérieur.
T'as de la chance, vous avez le droit d'avoir de winter body. Nous, c'est le summer body toute l'année, tu vois.
Ah
Donc,
ouais, bah oui, si, c'est
du coup,
vrai, ouais. Il y a un culte
c'est
du
ça qui
corps, ouais.
était complètement. Et donc, j'ai été surprise quand justement j'aurais commencé à leur parler et à leur dire que je pensais que j'avais un problème avec l'alimentation. Et ils m'ont dit, bah non, enfin, pour l'instant, on peut juste vous envoyer dans une clinique psychiatrique et puis on verra, on vous donnera des compléments alimentaires. Et puis voilà. Et puis en fait, bah, ça va pas du tout. Ça m'a aidé sur la dépression, cette première
Ouais.
hospitalisation, mais pas du tout sur les TCA. Et quand je suis sortie, du coup, j'avais continué à perdre du poids. Donc, de moi-même, encore une fois. Et grâce à ma maman, j'ai été voir un médecin à l'hôpital de Nice, qui est spécialisé TCA, mais plus nutrition.
D'accord.
Et lui, il a évalué que j'étais en dénutrition sévère parce que j'avais perdu plus de 20% de mon poids en 6 mois, quoi. Donc, du coup, il fallait intervenir d'urgence. Et donc, il m'a hospitalisée pendant une semaine à l'hôpital de Nice pour me poser une sonde nasogastrique et pouvoir maintenir mon poids. Et à Nice, quand je suis arrivée, ils m'ont dit tout de suite, bon, on vous garde une semaine, mais juste après, on vous transfère à Monaco, qui a une unité dédiée pour les troubles du comportement alimentaire, pour
D'accord.
justement travailler sur le fond, parce que la sonde, c'est bien beau,
Oui,
c'est
mais
chouette, mais
ouais.
ça traite pas le problème
Donc
de fond,
ça va
quoi.
te maintenir, mais tu vas pas, si tu as toujours ce trouble du comportement, tu vas
Ouais.
pas réussir sans la sonde, en fait.
Exactement, c'est ça. Parce qu'une fois qu'on l'enlève, bah, on retombe, quoi, on replonge. Donc, du coup, j'ai pu rentrer 1 mois après à Monaco. Et là, je suis restée longtemps. Hein. Je suis restée de fin octobre 2000, ouais, c'est ça, 2020 à fin février 2021.
Ah oui,
Donc, 4 mois à peu
4 mois.
près, sans sonde et à essayer de réapprendre à manger. Et ça a été pas forcément très productif, puisque j'ai perdu 7 kilos à l'issue de cette hospitalisation. Donc voilà, donc il faut savoir c'est qu'il y a très peu de structures et chaque structure a ses spécificités. Et sachant qu'il y a des milliards de façons d'être anorexique, comme des
Ben oui.
milliards de façons de souffrir de boulimie ou de plein d'autres troubles du comportement alimentaire qu'on ne connaît pas, bon, il y a l'hyperphagie, enfin, il y en a plein d'autres. Il y a aussi la potomanie, le fait de boire beaucoup d'eau, enfin plein de choses comme ça. Et donc, finalement, bah, ce n'était pas forcément adapté à mon trouble à moi, qui était vraiment au-delà de juste manger un plateau et tout ça, quoi. C'était très profond. Il y avait toute la question estime de soi, travail sur le corps, son rapport à son corps, au changement, etc. Et c'est pour ça que du coup je suis sortie et que ça s'est pas forcément amélioré et que pendant de fin février jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à juillet, je suis restée avec une sonde nasogastrique à attendre une hospitalisation. Et là, du coup, j'ai pu être hospitalisée à Dijon, dans une clinique spécialisée dans justement les troubles du comportement alimentaire, qui a une approche sur le travail du rapport au corps, avec beaucoup de psychomotricité, sophrologie, enfin voilà, une approche moins psychiatrique en fait.
Ouais, une approche ouais, pour aller voir vraiment chercher c'est quoi le problème derrière et puis pour t'aider
Ouais.
toi à régler le fond pour qu'on puisse après régler la forme quoi.
Exactement, et sans oublier la part dépression, puisque bien
Mais oui.
évidemment, ce ne serait pas drôle si la dépression n'était pas connectée au trouble du
Ah bah
comportement
bien sûr, ils
alimentaire.
sont liés, c'est
C'est
comme la
ça.
dépr c'est des petites sœurs comme je dis moi, comme
Ouais,
l'anxiété, c'est des petites sœurs. Quand
c'est
t'as la
ça.
dépression, t'es comme la grande sœur qui a oublié de se trimballer, tu sais, ses petits frères, ils sont
Ouais.
partout alors qu'ils n'avaient pas envie. Eh bien, c'est clairement ça avec la
Ah,
dépression.
c'est tout à fait
D'accord.
ça.
Donc, en fait, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'à chaque fois, bon, tu te sens un combat et ça ne veut pas dire que des fois, tu n'as pas eu envie de lâcher tout, mais tu as toujours tenu, quoi.
Ouais, parce que je me suis toujours dit que j'ai eu des moments joyeux dans ma vie et que c'était pas impossible de les retrouver. Et même si la dépression, finalement, on en guérit plus ou moins. Ça peut être très réfractaire, très récalcitrant et même chronique. Mais il faut apprendre à se dire qu'il y aura des moments de lumière et des moments d'ombre. Et il faut, voilà, le tout, c'est de savoir vivre avec, je pense. Et je me suis toujours attachée à cette idée-là, qu'on pouvait vivre avec et aménager sa vie au mieux, en fait, avec ce trouble et en faire une force aussi. C'est très important d'en faire une force. C'est-à-dire qu'on résiste mieux à certaines choses grâce à ça aussi.
En fait, c'est intéressant parce que pour moi, je trouve la dépression, c'est soit on s'en sort, soit on trouve un équilibre. Quand on parle d'équilibre, c'est que ça ne veut pas dire que, on est condamné à subir la dépression, mais on va trouver ce qui nous permet de vivre par rapport à notre situation, à nos difficultés. Genre, on va anticiper l'automne parce qu'on sait qu'on fera des rechutes. Tu vois, c'est ça, c'est qu'on va vivre avec les difficultés qu'on a aujourd'hui et on va les adapter pour voilà pour pas qu'elles nous fassent encore plus mal quoi et de trouver vraiment ce qui fonctionne pour nous aujourd'hui ben c'est ce qui va nous permettre de garder notre joie de vivre en fait
Exactement, trouver des outils et qui sont propres à chacun en plus.
c'est
Donc
ça en
c'est
fait
ça la subtilité, c'est qu'il faut
chaque
trouver
dépression est
ces outils.
unique chaque dépression est unique je présume que chaque TCA aussi est unique donc comme tu disais parce que là moi c'est un domaine que je connais pas du tout mais j'ai fait des recherches parce que on échangeait toutes les deux et j'ai découvert tellement de choses. J'étais vraiment surprise et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais j'avais vraiment envie qu'on ne va pas vraiment l'aborder aujourd'hui, mais vraiment qu'on puisse entendre que voilà, ça existe et qu'il ne faut pas faire l'autruche dessus, quoi. C'est ça qui est le plus important, il ne faut pas faire
Oui,
l'autruche
tout à
dessus.
fait.
Du coup,
Exactement.
quels sont pour toi les bienfaits que tu as eus à avoir cette hospitalisation, à avoir ces hospitalisations? Quels ont été les bienfaits pour toi?
Déjà, le fait de se mettre entre parenthèses et de se couper de son environnement, qui peut parfois être toxique sans qu'on s'en rende compte. Alors, l'environnement, en sens très très large, hein, c'est le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et en fait, n'avoir à penser qu'à soi, c'est déjà énorme. Parce que le problème de la dépression, comme de pas mal de maladies mentales, c'est qu'on a une tendance à la fuite quand même qui est assez forte. Et à se laisser aussi absorber par des choses nocives sans s'en rendre compte. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. C'est le fait de me mettre dans une bulle, de pouvoir avoir le droit de ne pas répondre à mon téléphone, de pouvoir l'éteindre toute la journée si j'ai envie. Déjà rien que ça, me reposer, ça c'est un mot que je ne connais pas mais que j'ai appris, et puis faire des choses futiles mais qui font du bien, comme l'art par exemple. Alors en fait, c'est pas du tout futile, mais avant, moi j'aurais jamais pris le temps de faire un coloriage, alors que maintenant je fais ça dès que ça va pas, ça m'apaise. Ou de la méditation, du yoga, ou d'autres choses, du sport même, hein. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Alors, ça m'a permis d'avoir des relations de confiance en moi, mais aussi dans les autres. Parce que du coup, j'ai pu justement me rendre compte que je pouvais compter sur les autres grâce aux hospitalisations. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément l'habitude. J'ai toujours été dans le credo de je ne peux compter que sur moi. Et si je suis défaillante, bah, c'est foutu pour moi. Donc, m'en remettre aux autres, ça m'a beaucoup aidée. Et puis bon, après, évidemment, tout ce qui est thérapie, enfin, le fait de voir un psychologue. des traitements en temps réel, ça c'est quand même un luxe, parce que quand on est chez soi avec sa petite boîte de médicaments et qu'on regarde tous les effets secondaires, on est là donc là au moins on est H24 avec des infirmiers, donc s'il y a le moindre problème ils peuvent intervenir, changer les doses, tout ça. Et donc j'ai pu faire pas mal de tests entre guillemets et trouver une molécule qui me convenait un peu mieux que ce que j'avais avant. Puis j'ai pu régler plein de trucs dans ma vie en fait, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec des traumas, que ce soit avec mon mari. Enfin, ça a mis de l'ordre en fait là où c'était le chaos. Donc ça a été une bonne solution pour traiter l'urgence. Voilà. Et j'étais protégée aussi de moi-même, puisque bien évidemment, avec des pensées suicidaires, j'étais très rassurée d'être dans un cadre. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, ça m'a bien aidée, ça m'a apaisée. Ouais.
Alors, je me suis dit, est-ce que je pose la question ou pas ? Je sais qu'on en avait discuté, mais je l'ai posée quand même. Oui. Quelles ont été les petites difficultés quand même ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'hospitalisation, parce que je sais que certains de mes auditeurs, peut-être des fois, sont hospitalisés là tout de suite, ou alors ils pensent, ou peut-être que des proches les ont demandé de l'hospitalisation. C'est bien d'en voir les bienfaits, mais je n'ai pas envie de, tu sais, de faire de la propagande. Et non, bien sûr. Me dire vraiment quelles sont les quelques difficultés. Alors, on ne va pas faire une longue liste, s'il te plaît.
Non, bien sûr. Les
difficultés que toi, tu as eues par rapport à l'hospitalisation, parce que le but, c'est de se préparer. Ce n'est pas non plus de dire que c'est la meilleure chose du monde, tu vois.
Oui, tout à fait.
En termes, mais voilà.
Ah non, mais je comprends tout à fait, et dans toute expérience dans la vie, il y a des choses positives et des choses négatives, et l'hôpital, c'est pas une baguette magique, c'est surtout ça en fait. Il faut juste se dire qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre au jour le jour, et parce que chaque jour est différent, chaque jour apporte des choses, même les jours les plus durs, et ben on en sort grandi. Mon petit conseil d'ailleurs, c'est de chaque jour d'écrire avant de se coucher une chose positive de la journée. Ça, c'est vraiment précieux, et surtout à l'hôpital, parce qu'en fait la plus grande difficulté, c'est qu'on est seul avec soi-même, malgré qu'on soit entouré de plein de soignants. Et c'est ça, il faut s'y préparer. Il faut se dire, ça va être un ring de boxe où on va être face à ces démons. H24, à prendre des uppercuts, à devoir se protéger au bon moment, à prendre des pauses des fois. Et autour de nous, on a tous ces coachs qui nous disent « Allez, vas-y, rétamelez la tronche !» Et bien ça, c'est les psychiatres, les psychologues, et puis les infirmiers. Voilà, ils sont juste là autour du ring. Malheureusement, ils ne peuvent pas mener le combat à notre place. Et je pense que c'est juste ça dont il faut avoir conscience quand on va rentrer à l'hôpital, c'est que ce ne sera pas magique. Mais dans tous les cas, ça apportera quelque chose. Enfin, même moi, dans les pire moment, j'ai trouvé des trucs incroyables que j'aurais jamais vécu sinon. Et y a aussi toute la dimension humaine qui est très très importante pour s'extraire de ces moments difficiles. Donc voilà, c'est juste ça. Après, ce qui peut être dur aussi, c'est le fait d'avoir la dépression souriante. Mais ça se travaille. Enfin, pareil, il faut pas hésiter quand on arrive d'office à l'exprimer. En fait, il faut être cash. Et dire les choses, et ça se passe au mieux aussi si on dit d'office que oui, on a un grand sourire, mais c'est pas comme ça qu'on se sent au fond, quoi.
Non, c'est bien de dire ça. Merci beaucoup Julie. Okay. Et du coup, ça va être ma dernière question. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des proches qui vont avoir des proches qui sont en hospitalisation, ou alors soit qui vont avoir, ou peut-être qui pensent, ou qui sont hospitalisés? Quels seront les conseils que tu pourrais donner?
Eh ben, je dirais qu'il faut accepter de reposer sur l'aide dont va bénéficier le proche en question. C'est-à-dire que des fois, on a un peu cette volonté d'être le sauveteur, genre surtout quand on est mari ou femme, et se dire par amour, je peux sauver la personne. Mais il faut juste se dire que c'est une maladie, c'est comme si on avait une pneumonie. On a beau être le mari, la femme, on ne peut pas soigner la personne, parce que, à moins qu'on soit médecin, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on a un mari ou une femme médecin. Et du coup, il faut accepter, voilà. Et se dire... Voilà, là, mon devoir, c'est juste de ne pas entraver déjà le processus de soins, au contraire, de le soutenir. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à faire accepter mon hospitalisation autour de moi, et ça a été vraiment une entrave pour moi pour faire les demandes à plusieurs reprises. Et donc, je pense que c'est très important de démystifier déjà ce que c'est l'hospitalisation, de se renseigner, de ne pas hésiter à poser des questions aux psychiatres qu'on rencontre, parce que souvent, les proches peuvent être amenés à rencontrer des psychiatres. Donc, il ne faut pas hésiter et il faut, même pendant l'hospitalisation, être soutenant, toujours. Apporter du positif, pas forcément parler hospitalisation, justement, parler d'autres choses, amener de
Ouais, de
l'extérieur,
ouf.
amener du soleil et se dire, voilà, la personne, elle est entre de bonnes mains, il ne peut rien lui arriver. Enfin, là, elle est au meilleur endroit où elle peut être, même si c'est dur, bah, justement, c'est parce que ça travaille. Donc, du coup, il faut pas hésiter à justement, quand on a des questions, plutôt que d'assaillir la personne hospitalisée, aller voir les infirmiers, ils sont toujours disponibles et à demander des entretiens avec les familles, ça c'est génial. Je l'ai fait à plusieurs reprises et ça m'a beaucoup aidée. Je pense que c'est bien parce que ça permet de préparer la sortie, ça permet
Oui, d'avoir de
de
positives
créer des
questions
liens.
qu'on n'y pense pas en fait. Et là, oui, on a les questions.
Ouais, c'est très très important de garder le lien avec l'équipe aussi thérapeutique et que ça fasse en fait une grande équipe entre proches, le dépressif ou la personne malade, et puis ben, les soignants tout autour et travailler main dans la main pour que ça se passe au mieux et que les relations soient le plus apaisées possible et qu'il y ait des secrets pour personne aussi parce que souvent le proche va se sentir mis de côté. On va dire, mais du coup, je suis exclue des. C'est pas ça. Des fois, à distance, parce que ça peut protéger, mais ce sera jamais dans une volonté de rompre un contact. C'est juste un temps donné et avec un dialogue, toujours. Voilà.
D'accord. Bah écoute, en tout cas, Julie, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Et ça fait très plaisir, en tout cas, que tu aies pu parler de ton hospitalisation. Et c'était très, très encourageant, en tout cas, pour mon côté. Donc, merci beaucoup à toi.
Ah, merci à toi, Manuela. C'était vraiment un honneur de discuter avec toi et de faire ce podcast. Je sais qu'on a beaucoup travaillé dessus.
Oui.
Et moi, c'est vraiment, je suis très heureuse et j'espère sincèrement que ton travail, ce que moi, j'ai pu apporter à travers ce petit témoignage, bah, ça pourra aider d'autres gens
Ouais.
et ça pourra les aider à sortir de leurs souffrances ou de leurs doutes et puis aider aussi leurs proches. Voilà. C'est mon souhait le plus
C'est
cher.
cool. Tu sais, ce qu'on me dit souvent, ce que les gens ils me disent souvent, c'est Manuela, t'imagines pas à quel point mon podcast il aide en fait. Et je sais que tu vois, même si je suis toute seule quand je l'enregistre, ou là tu vois, je suis en échange avec toi, je sais pas ce qui se passe, mais je sais qu'il est diffusé. Donc du coup, en tout cas, tout ce que tu t'as apporté, je suis sûre que ça va pouvoir aider quelqu'un. Ça, c'est
Oh,
sûr.
bah, c'est
Merci à toi
super.
beaucoup, Julie.
Merci.
Merci à toi, Julie, de nous avoir raconté ton histoire, partagé ton expérience et encouragé à travers ton histoire. Si vous aussi, vous souhaitez participer au podcast Raconte-moi ta dépression, que vous souhaitez raconter votre histoire, eh bien, il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse hello@mydepression.com. Je me ferai une joie de discuter avec vous et d'enregistrer votre histoire pour la partager à d'autres personnes. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette interview et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.